un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce matin, 12 millions d'élèves sont rentrés en classe. Parmi eux, il y avait Sacha et son premier cartable fièrement vissé sur le dos, Polo avec un t-shirt neuf, Sophia sans sa tunique menaçante et Dédé, le nez au vent, encore heureux de ses bonnes notes au bac français. Tous la boule au ventre quand même, ils sont allés au charbon. De l'autre côté, 853 700 enseignants dans le public et le privé sous contrat, auxquels il manquait cette année encore 3100 postes non pourvus. On appelle ça la crise de l'attractivité, ce qui veut dire « prof, moi, jamais » ou alors « plus jamais ça ». Le dégoût, le ras-le-bol, la boule au ventre vraiment trop grosse, l'angoisse. En 10 ans, le nombre de départs volontaires dans l'enseignement a été multiplié par 4. 2411 profs ont démissionné en 2021 pour 560 en 2010. Tout de suite dans les pieds sur terre, on parle de ça, de ces profs qui ont arrêté, et pourquoi, et ce qu'ils sont devenus ensuite. Ce sont deux histoires singulières mais emblématiques, Isabelle et Elda, racontées par Anna Benjamin.
Je m'appelle Isabelle, j'ai 37 ans. J'habite à Bully, au nord-ouest de Lyon. J'étais une élève très sage, très studieuse, on ne m'entendait pas, je participais un petit peu. J'étais assez discrète. Ce qui m'a menée au métier de professeur, c'est avant tout mon goût des mathématiques, donc c'était ma matière préférée. Et aussi j'ai suivi des modèles de profs, enfin, je pense que je devais les admirer. Monsieur Sauvage au collège, Monsieur Fauché au lycée. Finalement, la transmission, j'ai toujours adoré aider mes camarades, donc je pense que ça a suivi adulte. J'ai eu une licence de maths, après j'ai eu mon CAPES de maths en 2009, et j'ai commencé ma première année de stage à 23 ans, j'étais très jeune. Ma première année de stage, c'est pas très bien passé, je l'ai vraiment mal vécu, je me sentais pas du tout armée, préparée pour affronter des adolescents, un groupe d'adolescents qui n'était pas forcément tel que je l'imaginais. Et ça a été dur, beaucoup de bordel, si on peut me permettre le terme. Enfin, on dit bordélisé. Ça veut dire que on tient pas trop ses élèves dans le sens où il y a du bruit dans notre cours. On n'arrive pas à maintenir un cadre suffisant d'apprentissage, enfin, pour que les élèves écoutent le professeur, finalement. Un élève avait jeté sa trousse par la fenêtre. Sauf qu'on était à l'étage le plus haut. Il y avait des toits. L'élève est parti sur les toits. Il est parti par la fenêtre chercher sa trousse. Et je maîtrisais pas du tout ce genre de scène. Et au final, bon, heureusement, il est revenu avec sa trousse. Mais moi, à l'intérieur, je balisais, mais je savais pas quoi faire. En fait, j'avais pas les armes ou même la connaissance qu'on pouvait avoir ce genre de comportement. J'étais une idéaliste, je crois. En fin d'année, avec la classe de 4e, celle où j'ai eu le plus de soucis, j'ai demandé une question très bête, simple aux élèves. « Pourquoi vous avez été comme ça toute l'année avec moi ?» Et là, ils m'ont répondu, un des élèves, je me souviens encore de son prénom, Gibson. « Vous ne nous avez pas dit de ne pas faire telle chose ou telle chose. » En fait, il fallait constamment interdire des choses, donner le cadre. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans mon cours à moi? Qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire dans mon cours? Il y a aussi une relation à créer avec la classe. Et je ne pense pas l'avoir bien réussi, cette relation-là. Je ne l'ai pas instaurée. Enfin, je n'ai pas trouvé ma place cette année-là. Non, je n'ai pas trouvé ma place. Je suis mutée en Bourgogne. Ça allait un peu mieux. Il me semblait que j'avais quand même compris un peu de mes erreurs. J'ai rattaqué avec des classes de 3e, 5e, je ne sais plus, dans deux collèges différents. Donc j'étais remplaçante cette année-là. Mais la classe de 3e, elle m'a rapidement posé des soucis en cours d'année. Je me souviens encore d'une scène avec une maman d'élève. Et puis elle disait « Mais je pense que mon fils, c'est pas lui le problème. C'est vous le problème, en fait. Vous vous faites pas respecter. » Mais je trouve ça injuste parce que c'est une relation qui va dans les deux sens. C'est pas que au prof à être super charismatique, avoir la voix que j'ai, avoir une grosse voix. C'est pas qu'une apparence. J'aurais aimé, moi, que les élèves aient un peu plus d'empathie, même s'ils sont jeunes et qu'ils sont pas toujours capables de ça. Je suis juste sensible, en fait, et je suis peut-être pas adaptée pour ces conditions-là de travail. J'avais une classe de 5e encore, et Alexis, donc je me souviens encore de son prénom, oui. C'était un élève en difficulté qui avait vraiment beaucoup de mal à suivre un cours de maths. Et je demandais de recopier la correction de ce que je faisais. Je l'ai demandé plusieurs fois, j'ai un peu insisté. Et là, il s'est levé, il s'est rapproché de moi, comme s'il voulait me donner un coup de poing. Enfin, et je me suis sentie agressée, sauf qu'il ne l'a pas fait, il s'est retenu, il s'est reculé. Mais n'empêche qu'il y avait l'intention. Et rien que l'idée ou l'intention, ça m'a choquée. Donc là, j'ai trouvé qu'une chose à faire, c'était de l'exclure avec un délégué qui est parti de la salle de classe. Mais derrière, une fois que le délégué est revenu, j'ai craqué, j'ai tout lâché. Je me suis retournée, mais c'était ridicule parce que tous les élèves voyaient que je pleurais. Et là, franchement, je les ai trouvés choux à ce moment-là. Ils m'ont tous dit « Mais madame, c'est pas vous, vous avez rien fait, pleurez pas. Enfin, Alexis, il est pénible, il est comme ça, vous n'y êtes pour rien. » Ils m'ont écrit un super joli mot avec plein de retours en me disant que j'étais une super prof et tout. Finalement, je me suis dit que c'est quand même souvent une histoire de 2-3 personnes en difficulté qui font que le métier parfois est difficile. J'en ai pas parlé, peut-être à un ou deux collègues proches. J'en avais assez de paraître comme celle qui se plaint ou qui est fragile justement, ou la pleureuse. Quelques années auparavant, un élève de 3e était revenu avec un stylo ou enfin un effaceur dans le pantalon pour simuler une érection. Moi, j'étais tellement choquée, j'ai même pas fait preuve d'humour en lui disant qu'il était prétentieux, par exemple. Non, bouche bée, rien, il n'y avait aucun mot qui sortait de ma bouche. Derrière, j'en ai parlé au principal et il m'a rayonné. Enfin, c'était pas grave pour lui. Alors que, bon, je veux pas faire ma sainte ni touche, mais c'est quand même un manque de respect de faire ça. Dans ces moments-là, je me sentais seule. Sauf que non, on n'est pas tout seul, on a une direction, on a un entourage pédagogique, on a une vie scolaire, enfin, l'enseignant, il doit pas être tout seul. C'est horrible, sinon, je vais pleurer là. En fait, ce qui me met les larmes aux yeux, c'est que je me dis qu'il y a tellement de profs comme moi qui... Alors, j'étais pas parfaite, mais j'étais quand même engagée, j'étais investie, j'étais passionnée. Et bon, on arrive à les dégoûter parce que juste, on est seul et on n'est pas soutenu. Mais je trouve ça terrible. Aujourd'hui, pour être prof, il faut envoyer du lourd, quoi. Mais au niveau des apparences, alors qu'au fond, il y a quelqu'un qui a envie de bien faire. Nerveusement, c'est un métier qui, moi, m'a beaucoup sollicité et on peut peut-être juste pas aujourd'hui le faire 40 ans. Des fois, je me souviens devant ma voiture comment je respirais pour essayer de faire partir l'inquiétude. Je faisais des longues respirations. Ça marchait pas, ça marchait plus. Enfin, ça n'a jamais trop marché d'ailleurs. Et voilà, je vous rassure, il y a des années où j'ai tenu mes classes. Enfin, à force, avec l'expérience, j'ai pu savoir ce qu'il fallait faire. Et ben moi, ça me demandait des efforts quotidiens, quoi. Et j'arrivais à la maison le soir, j'étais tellement fatiguée parce que juste je passais une journée tendue. Ben, on peut pas être toujours tendu et stressé tous les jours et tous les soirs et faire des cauchemars d'éveil, de rentrée de classe. Je rêvais que mon bureau, il y avait plus rien, ou alors les feuilles volaient, les élèves partaient. Enfin, je rêvais vraiment que tout partait en live. C'était plus fait pour moi. Enfin, j'en pouvais plus. Ça devenait une accumulation. Au début, les difficultés, j'arrivais à les éponger parce que j'étais jeune, parce que j'étais inconsciente peut-être. Je sais pas où. Au début, quand c'est comme là, c'est la jeunesse. Au bout de 10 ans, 11 ans, j'avais plus envie de prendre sur moi. J'avais cette idée en tête, c'était de sauver ma peau. C'était soit le métier, soit moi. Donc j'ai choisi moi. Le moment où je me suis dit vraiment j'en peux plus, je veux quitter ce monde-là, ça a été l'après-grossesse de ma fille. Pour moi, elle a accéléré ce que j'avais déjà en moi. Là, j'ai dit, je veux pas que ma fille elle soit malheureuse. Je veux pas qu'elle ait une mère comme ça aigrie. C'est pas ce que je veux lui apporter. J'ai mis du temps à me décrocher de ce métier que j'appréciais en partie, sinon je serais pas restée 11 ans. J'ai demandé une rupture conventionnelle au rectorat de Lyon. J'obtiens ma rupture conventionnelle au bout d'un an à peu près après l'avoir demandé. J'ai eu 7 500 € à peu près. J'ai été étonnée d'avoir la rupture conventionnelle parce qu'on m'avait clairement dit, en gros, il y a 3 ruptures sur 10 qui sont acceptées pour une question d'argent. Je suis pas revenue au collège. En fait, je pouvais pas. J'avais fait une sorte de deal avec moi-même, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais décidé de partir, je me suis dit, la semaine d'après, tu vas vider ton casier, tu vas vider ta salle de classe, tu vas reprendre tous tes chariots de jeux plastifiés, là, enfin, tu reprends tout, et il n'y a plus aucune trace de toi au collège. Il fallait un acte fort, pour vraiment pas faire de demi-tour, vous voyez. Je reviens pas et je me refais pas du mal. Je me suis enfermée dans ce métier de prof. J'étais enfermée. L'ancienne élève, en fait, elle est restée toujours dans le moule de l'éducation nationale ou l'enseignement. Elle n'a jamais rien vu d'autre, sauf faire des frites l'été, mais sinon, à part ça... j'avais peur de ne pas être à la hauteur sur un autre métier. Je pensais que je ne savais rien faire d'autre. Il a vraiment fallu qu'on me prenne la main en bilan de compétences. Et c'est là que j'ai compris que, je savais faire des choses quand même. Et ensuite, donc, j'ai trouvé rapidement du travail dans un cabinet de conseil qui travaille auprès de plusieurs acteurs du logement. Et moi, je suis gestionnaire de données. Je fais aussi de l'assistance client, donc je retrouve un peu ce que j'aimais bien avec les élèves, c'était aider. Et je produis beaucoup de stats sur les logements sociaux. Et on m'a pris en partie parce que j'étais prof de maths avant. Il manquait quelqu'un, en fait, qui a une capacité à manier les chiffres. Et ça me plaît bien parce qu'il y a aussi l'assistance client, c'est un mélange de plusieurs casquettes. Et il y a même une partie formation. Et alors, je ne vous cache pas que j'ai encore pas mis mon nez là-dedans. Mais je vais y aller parce que je sais que c'est avec des adultes et qui sont 12 et qui sont beaucoup plus sages.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Edla, j'ai 37 ans, j'habite à Tours. Comme beaucoup de petites filles, je voulais être maîtresse. Et puis un coup de cœur en fait pour l'espagnol. En quatrième, une grande passion est née. Et puis assez naturellement, l'envie de la transmettre. Alors je commence le métier de professeur à 25 ans. Je passe les concours. J'ai l'écrit du premier coup. Bon, mais je rate les oraux. Donc, je me réinscris. Cette fois-ci, je ne vais même pas aux écrits. Donc, vraiment un parcours du combattant pour réussir à décrocher le concours, si bien que je décide de me présenter en tant que contractuelle et donc de commencer le métier en me passant du concours. Je commence à être professeure en lycée professionnel. Je me souviendrai toujours de ma première heure de cours en tant que contractuelle où j'ai été jetée dans une classe sans aucune formation. Le proviseur m'avait accueillie avec un œil au beurre noir ce jour-là pour me dire « Nos élèves sont certains charmants, d'autres pas, comme vous pouvez le constater. » Donc ça m'a mis dans l'ambiance. Donc je suis arrivée en tant que spectatrice vraiment d'un grand n'importe quoi, d'un brouhaha. Et à ce moment-là, je me suis dit « Soit je rentre dans un rôle et j'y vais. » Soit je m'effondre et je pars. Et si je pleure une seule fois, j'arrête ce métier. Je me dis, faut que moi, toute petite, j'en impose. Donc ça passe par le fait de poser sa voix, de ne pas crier, mais de hausser la voix quand il faut. Parce que si on crie trop, c'est plus crédible. Essayer de faire adhérer les élèves aussi à des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc vraiment, rentrer dans un costume de « je vais être respectée et je suis là pour me faire entendre ». J'ai fait ça quand même pendant 5 ans. À chaque fois, on m'accueillait les bras grands ouverts parce qu'on avait besoin, tout simplement. Et je décide de passer le concours, mais cette fois-ci, pas le CAPES d'espagnol, mais le CAPLP, lettres espagnoles. Puisque les 5 ans que j'ai assuré en tant que contractuel, c'était dans un lycée professionnel, ce qui me plaisait plutôt bien. Parce qu'il y avait un public qui était différent de celui auquel je m'attendais, avec des difficultés sociales, mais qui ne me déplaisait pas, au contraire. Au départ, j'ai 6 classes. Ça signifie que je vois les élèves au minimum 2 heures par semaine, voire 3 heures par semaine. Donc ça a permis quand même de construire des choses. J'arrive à tisser du lien, à créer du sens dans ma transmission d'une matière et de les voir adhérer aussi, parce que je vois que la mayonnaise prend. Le côté aussi relationnel me plaît beaucoup, le fait de materner, parce qu'on a un peu tous les rôles quand on est professeur. On est infirmière, on est maman, on est professeur bien sûr, on est assistante sociale, on nous confie des choses, enfin, et tout ça me remplit de joie. Je suis heureuse d'être prof à l'époque. Et au fur et à mesure, je constate que j'ai de plus en plus de classes, que j'ai de plus en plus d'élèves, de plus en plus de niveaux. Quand j'ai commencé avec mes 6 classes, je n'avais que 2 niveaux. Et puis, j'ai terminé avec 11 classes, avec seconde, première, terminale, BTS, une classe de nouveaux arrivants sur le territoire français aussi. Là, j'ai complètement l'impression de faire du travail à la chaîne, de voir les élèves défiler, de plus avoir assez de temps pour m'intéresser à eux, une frustration énorme, grandissante. J'avais vraiment l'impression d'être une serveuse, servir des cours qui me donneraient le moins de travail possible après, parce que j'avais quand même 200 élèves, donc égale 200 copies. Et ça me désole, mais je ne peux pas faire autrement. Un jour, une élève en fin d'heure de cours s'effondre en larmes. Je vois que ça ne va pas, qu'elle est prête à se confier, que je peux l'aider peut-être, en tout cas qu'il faut essayer. Je sais que j'ai cours dans la seconde qui suit à l'autre bout du couloir avec 25 élèves qui m'attendent, qui commencent à chahuter. Je les entends d'une oreille. Je suis avec l'élève qui en a besoin vraiment réellement à ce moment-là. Et j'entends les surveillants qui m'appellent, enfin qui pensent que je ne suis pas là, que je ne suis pas à l'heure, alors que je suis là mais je ne peux pas me couper en deux. Enfin, ce sentiment vraiment de pas pouvoir faire ce pourquoi j'ai choisi ce métier. C'est-à-dire m'occuper des élèves au sens large, pas que pour leur enseigner telle ou telle discipline, vraiment m'occuper d'eux. Et là, je fais le choix quand même de m'occuper de cet élève, mais je dois avouer que j'ai bâclé. Je lui ai dit, on se reparle tout à l'heure si tu veux bien, parce que là, je ne peux pas, j'ai cours, je peux pas rester avec toi. Des moments comme ça, il y en a eu plein de grandes frustrations. La charge mentale, je la sens grandissante en fait. Je sens que j'ai une chape de plomb sur moi, que j'essaye d'y arriver, mais qu'on me rajoute en fait des missions, on me demande d'être prof principale. Je dis, je ne préfère pas, mais on n'a pas le choix, on n'a personne. La direction me répond qu'il vaut mieux que je le fasse mal que pas du tout. Et on me l'impose, donc je le fais tant bien que mal. Donc en les voyant une heure par semaine, c'est impossible. Donc pendant mes heures à moi, libres, je vais les voir dans leurs autres cours. Parce que j'ai besoin de récupérer des documents, parce que j'ai besoin de leur parler. Je leur donne mon numéro de téléphone. Je sais que beaucoup de collègues le font. Quand j'en parlais parfois dans ma famille, on me disait « Mais nous, on n'a jamais eu les numéros de nos profs. » Et force est de constater que moi non plus. Mais je cherche par tous les moyens à continuer à faire mon travail de façon correcte. Mais je m'épuise en fait. Je multiplie les niveaux, les heures, les classes parce que mon poste est menacé. Parce que l'espagnol, c'est pas important, donc une heure par semaine, ça suffit largement pour les élèves. Pour rester, il faut que je donne encore davantage. Peut-être que ça allait se transformer en demi-heure de cours, je ne sais pas. En quart d'heure, ça devient ahurissant, quoi. Début janvier, un souci se pose avec des élèves que j'appréciais particulièrement et qui étaient impliqués dans une histoire et qui, moi, me paraissaient injustes. Et là, je veux les défendre tout en restant à ma place, mais je fais ce que je peux pour les aider. Et là, je découvre que j'ai des réactions, des plaques sur le corps, surtout sur les bras, avec des démangeaisons affreuses. J'avais les bras boursouflés, rouges, donc n'en pouvant plus, je décide de consulter mon médecin, qui me demande de me dire ce qui se passe en ce moment. Donc je parle 5 minutes, elle me dit stop, je vous arrête, 15 jours. Et je lui dis, mais c'est pas possible, je dois voir mes élèves, je dois leur... Enfin bon, bref, j'ai dit, c'est impossible, une semaine si vous voulez, c'est vrai, je me sens fatiguée, mais... Elle me dit, non mais vous comprenez pas là, je vous arrête, je vous laisse pas le choix, c'est pas une semaine, c'est 15 jours et ce sera peut-être plus. Et je me rendais pas compte en fait. Et mon corps me disait stop. Et donc la veille des vacances, en fait, le vendredi, j'étais en arrêt depuis 15 jours. Je reçois un coup de fil de mon proviseur. Donc je me dis, c'est sympa, il appelle pour prendre de mes nouvelles. Il m'a appelé pour me dire que mon poste serait supprimé à la rentrée. Mes collègues ont été super parce qu'elles ont fait des pieds et des mains pendant toutes les vacances qui ont suivi pour solliciter toutes les personnes qui pouvaient m'aider à sauver mon poste. Parce que moi, j'étais pas en état, j'étais perdue. Je ne savais plus si c'était ce que je voulais faire ou pas. Et en même temps, je me sentais prisonnière de ce métier que j'aimais pourtant. Enfin, j'étais vraiment perdue, pleine de contradictions. Et puis, on a réussi à sauver mon poste. Et l'année suivante, la question s'est posée encore une fois de sauver ou pas mon poste. Sauf que moi, entre-temps, je savais que je ne resterais pas. Peu de temps avant ma réaction corporelle, mes parents me propose à mon frère et moi de reprendre l'entreprise familiale. L'idée ne vient même pas d'eux, en fait, c'est en discutant avec leur banquière qui leur dit « Mais est-ce que vous avez proposé à vos enfants ?»« Bah non, mais bon, notre fille, elle est prof, notre fille, elle est dans toute autre chose. »« Oui, mais est-ce que vous leur avez proposé officiellement ?»« Non, donc ce serait bien de le faire pour pas qu'il y ait un jour des regrets. » Bon, donc ils nous l'ont proposé, mais même eux, voilà, sans trop y croire, en fait. Bon, bah ouais, ok, on va réfléchir, hein, d'accord. On l'a vraiment pris, pas à la légère, mais presque, quoi. Et donc là, j'ai été forcée de me poser parce que l'opportunité, elle était maintenant. On a pris quand même quelques mois de réflexion, mais disons que cette opportunité, je ne l'aurai pas deux fois. Donc, après plusieurs mois de réflexion, on décide, avec mon frère, de reprendre l'entreprise familiale. Une fois que ma décision est prise, elle est prise. Et j'ai une petite émotion, bien sûr, de laisser les élèves, mais en même temps, j'ai l'impression de les avoir déjà laissés avant, en fait, parce que je ne peux pas m'occuper d'eux comme j'aimerais le faire. J'ai l'impression d'être, en fait, honnête avec l'idée que je me fais du métier d'enseignant, et pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir plus de 200 élèves, les bulletins scolaires en les voyant une heure par semaine, quelle appréciation vous voulez écrire qui soit révélatrice du niveau vraiment de l'élève dans toutes ses compétences. C'est pas fidèle, en fait. Ça colle pas à la réalité. Donc, en septembre, je sais que c'est ma dernière année, c'est ma dernière rentrée. Je décide, le 5 janvier, d'envoyer ma lettre de demande de rupture conventionnelle. Je suis reçue fin février, 2 mois après, au rectorat, donc pour expliquer mes motivations qui étaient pourtant notifiées dans la lettre, mais bon, j'ai dû quand même expliquer, je confirme que j'aimerais une rupture conventionnelle. Mi-juin, je reçois un refus, parce que ils avaient besoin tout simplement d'effectifs au complet, donc. Mais que si je contestais, je pouvais être reçue de nouveau au rectorat. Je suis reçue par la même personne. J'avais en amont préparé ma lettre de démission. Je lui demande qu'elle m'explique pourquoi ma demande de rupture conventionnelle est refusée. Donc elle me redit la même chose, qu'il y a une nécessité de service, un besoin accru dans l'académie, qu'ils ne peuvent pas se permettre et que c'est non. Donc je réponds qu'ils n'ont pas bien compris, en fait. Je vais partir. Avec ou sans rupture conventionnelle, je vais partir. Donc je lui tends ma lettre de démission. Elle me dit « Ouh là là, mais vous êtes sûre vous avez bien réfléchi. Elle me dit que j'ai un statut de fonctionnaire, que j'ai certains avantages que je n'aurais pas en allant dans le privé. Je lui dis, mais oui, j'ai bien réfléchi. Donc là, elle se ferme. Elle regarde son ordinateur et elle me dit, mais sachez qu'on ne part pas de l'éducation nationale comme ça et qu'on doit accepter ou pas votre démission. Et puis, vers le 20 juillet, je reçois un courrier papier, cette fois-ci chez moi, m'indiquant qu'ils prennent en compte ma démission, qu'ils l'acceptent et que je serai radiée des fonctionnaires de l'État au 31 août. Le fait de partir après 12 ans d'enseignement où je me suis donnée vraiment à fond, sans rien, ça laisse un goût amer. Mais je regrette pas, je suis retournée au lycée 3 fois déjà cette année. Voilà, j'y suis allée lors des journées portes ouvertes. Donc là, c'est le bonheur de les retrouver. Voilà, j'espère que tu travailles bien, que tu es à l'heure maintenant. Bon, voilà, ces petites choses qui font que le métier de prof, c'est chouette aussi. Mais ils nous usent, vraiment. Avec des conditions, des pressions aussi, beaucoup d'infantilisation. Enfin, quand j'ai fait mon petit discours de départ, beaucoup de collègues m'ont dit t'as de la chance d'avoir quelque chose derrière. Moi, si je pouvais, je partirais. Je peux pas me permettre parce que j'ai mes enfants, mon mari a pas un job sûr, donc c'est compliqué pour moi. D'autres développent une petite activité de vente à domicile pour essayer de voir si ça fonctionne ou pas, pour s'engager dans une autre activité. Mais énormément de professeurs veulent partir. Vraiment. Avec mon frère, on s'occupe de 3 entreprises qui sont sur le même site. Donc, il y a une entreprise de mécanique qui est l'entreprise de départ. Il y a une entreprise de réparation de bennes à ordures ménagères et une troisième qui loue des bennes à ordures ménagères et des balayeuses, enfin tout ce qui permet d'entretenir la voirie. Rien à voir avec professeur d'espagnol. Je ne regrette absolument pas mon choix. J'avais peur de m'ennuyer parce que passer d'un établissement scolaire où ça grouille de partout, où il y a des cris, des bagarres, où il faut crier soi-même pour qu'ils se taisent, pour qu'ils enlèvent leurs casquettes, pour qu'ils enlèvent leurs écouteurs. Mais pourquoi? Mais parce que, enfin, en fait, c'est fatigant de répéter toujours ces choses-là. Et donc, j'avais vraiment peur d'un vide. Passer de 200 élèves, forcément, à 15 salariés, et en fait, pas du tout. J'apprécie un certain calme retrouvé, d'être dans un monde d'adultes aussi, et mes cordes vocales se reposent. Si j'avais pas eu d'opportunité, c'est sûr, j'en suis convaincue, je serais restée prof toute ma vie. C'était une carrière, je reste convaincue que c'est une vocation. J'aurais pas tenu 12 ans si j'avais pas eu un amour pour ce métier, un amour pour les jeunes.
C'était Prof, pourquoi j'ai arrêté, un reportage d'Anna Benjamin, elle-même autrice d'un livre intitulé Prof, une journaliste en immersion aux éditions de La Goutte d'Or, une émission réalisée par Étienne Gracianet, mixée par Florent Bujon. Merci à Isabelle, à Elda, Aurélie, à Rémi Boyer de l'association Aide aux Profs et à Emmanuel Geoffroy. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. Not a blaze of glory. You look down from the temple as people endeavor to make it a story. And chisel a marble world, but all is lost if it's never heard. But I've got someone to make grief. Tell me how my money's spent to cook my stains and draw my blinds, so I can't tell what's really there. And all I need's a great big congratulations. Baldwin's. You start with the simple start.